C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Évidemment, il faut parler d'élection. La rumeur veut que le scrutin soit déclenché dimanche. Rien n'est confirmé, mais sont quand même nos politiciens en campagne depuis plusieurs semaines. Alors, on va faire la commission électorale ce matin. Nathalie va commencer, là, voir un peu comment se placent les différents joueurs.
Oui, alors pour cette première semaine non officielle de campagne, on sent les grands partis fébriles. Il faut savoir que c'est toujours excitant pour ceux et celles qui font une campagne électorale, hein, d'être sur la ligne de départ, et là, ils attendent impatiemment le coup d'envoi, sauf que c'est particulier cette année parce qu'ils n'ont pas attendu le coup d'envoi officiel pour démarrer cette campagne. Ce qui me frappe pour cette première semaine, c'est alors que les quatre chefs de partis, des grands partis sur cinq, sont très visibles. Où est M. Legault? Où est Charlie? Et je sens que la CAQ est extrêmement prudente et selon moi, ça va être une caractéristique de la CAQ durant les prochaines semaines, jusqu'au 3 octobre. Ils vont faire preuve d'une très, très grande prudence. Certains, comme Dominique Anglade, trouvent que la prudence de M. Legault est synonyme d'absence, mais peut-être que le premier ministre se fait discret justement pour conserver son énergie parce qu'une campagne électorale, c'est un marathon. Là. Tu peux pas tout donner sur la ligne de départ parce qu'au 20e kilomètre, ça se peut qu'il te manque un peu de gaz. Je retiendrai qu'il y a deux dossiers qui sont apparus sur l'écran radar de la CAQ qui n'étaient pas prévus, celui de la violence armée à Montréal et celui de la fonderie Orne. Et la preuve de la fonderie Orne, le premier ministre a pris la décision de s'impliquer personnellement dans le dossier, ce qui est un échec pour le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette. Pour ce qui est de Montréal, c'est absolument fascinant ce qui est en train de se passer en coulisses. On a vu la sortie de la mairesse, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui dit « Nous, on est prêts à donner les millions dont Montréal a besoin. » Et là, on apprend, via la presse et TVA, que Québec soupçonne la ville d'avoir détourné l'aide financière qui était destinée à la lutte à la criminalité pour réduire ses dépenses dans les activités du SPVM.
Oui, mais ça, je pense que c'est une manœuvre. C'est-à-dire que...
Mais c'est exactement ce que je suis en train de te dire, mon cher Luc. C'est-tu le message qui est envoyé? Le gouvernement dit à la ville, garde, on veut pas de ce dossier-là dans nos pattes pour la campagne électorale.
Ça.
Fait qu'organisez-vous pour pas qu'on ait...
On allait t'en parler dans le rapport de la semaine, mais je vais t'en parler tout de suite.
Ben oui, voilà.
Ben, en fait, c'est faux. C'est-à-dire que l'argent a été dépensé, mais a été dépensé en temps supplémentaire, n'a pas nécessairement été dépensé en embauche, puisqu'il n'y a pas eu autant d'embauche que prévu. Mais le grand coupable là-dedans, puis je trouve que la CAQ attaque pour se défendre, c'est que sans tort, c'est 200 millions sur 8 ans. Fait que ça fait 25 millions par année pour 8 villes. 25 millions par année pour Gatineau, Laval, Longueuil, Montréal,
nettement
Québec.
Nettement insuffisant.
Nettement insuffisant. Et en plus, la répartition correspond pas du tout aux besoins. Les besoins de la ville de Québec en matière de violence armée par rapport aux besoins de la ville de Montréal. Et ça, c'est typique de la CAQ. Pas capable de reconnaître un problème montréalais quand il se présente en disant, voilà, c'est un problème montréalais, on va donner à Montréal. Logement social, ils ont fait pareil. Pas capable de donner de l'argent sur le logement. Non, il n'y en a pas de crise. Il n'y en a pas de crise. Jusqu'à il y a même pas quelques mois, il n'y a pas de crise du logement parce que c'était une crise montréalaise. Quand ils ont commencé à comprendre, oups, c'est une crise québécoise, là, la première promesse, ça a été sur le logement social. Et là, pour Centaure, je regrette, il n'y a pas assez d'argent, il n'est pas bien réparti. Et donc, ils partent à l'attaque. Ils disent, Montréal a mis de l'argent dans ses poches. Mais les chiffres démontrent que c'est pas vrai. En temps supplémentaire, il y a une quarantaine de millions.
Comme quoi le diable se cache dans les détails, mais est-ce que ça nous dit l'exemple de la police, de la violence armée et du logement, c'est que la CAQ, politiquement, démontre très, très peu d'intérêt pour la métropole. Politiquement, est-ce qu'ils ont des gains à faire? Pas tant que ça. Mais ce qui est désolant, c'est que tu peux pas traiter la métropole comme tu traites une autre ville.
Ça va leur mordre les fesses parce que...
Écoute, la métropole, c'est la métropole quand même.
Quand tu habites à Trois-Rivières, tu t'inquiètes pareil de savoir que les gens se tirent dans la rue à Montréal. Là. T'inquiète pareil.
Ben oui,
même si t'habites à Trois-Rivières, même si t'habites à Bécomo, là. Fait que c'est pas une bonne décision. Et là, ils courent, puis là, ils ont dit tout de suite, tu sais, moi, je l'ai eu en entrevue, puis j'ai dit, est-ce que vous avez donné plus d'argent? Oui, on veut entendre les besoins. Le 16 juin, la mairesse est sortie en disant, on a besoin de plus d'argent précisément sur la sécurité. Donc, c'est pas vrai que la ville n'avait pas exprimé ses besoins.
Moi, j'ai une question.
Ouais.
Plus d'argent pour faire quoi? Si t'es pas capable d'embaucher des policiers parce qu'il n'y en a pas, tu veux plus d'argent pour qu'ils payent le temps supplémentaire?
Ben, en plein ça. C'est-à-dire que la question est bonne. On a appris hier le syndicat que la fraternité, que pratiquement toute la dernière cohorte a disparu. C'est-à-dire qu'ils viennent à Montréal quand ils peuvent pas aller ailleurs, sinon ils vont s'inscrire dans d'autres villes, ou ils font quelques années à Montréal. Quand ils ont gagné quelque chose, un peu de grade, ils vont faire valoir leur expérience dans une autre ville. Puis d'ailleurs, leur expérience à Montréal, tu t'en vas dans une autre ville, tu t'en vas à Blainville, tu dis j'ai été dans le 28 ou dans le 20 ou dans le 21 à Montréal pendant 4 ans, ça vaut cher, tu sais, parce que là, ça démontre que tu as développé des compétences, que tu as vu des choses. Fait que ils vont tout de suite valoir leur expérience. Pourquoi? Parce que tu peux pas y arriver à Montréal. C'est impossible d'accéder à Montréal.
Ben, un instant, il n'y a pas seulement les policiers qui font la patrouille, là. Quand tu mets sur pied une escouade comme Centaur, comme Eclipse, tu as besoin d'enquêteurs, tu as besoin de gens qui sont au renseignement, tu as les organismes communautaires. C'est pas vrai, Paul, que la réponse à la lutte à la violence armée,
non, mais
c'est...
Les
c'est...
montants versés dans Centaur, c'est pour la police. C'est-à-dire, il y a d'autres montants qui sont prévus pour les groupes communautaires, mais moi, j'essaie de voir, à part de payer du temps supplémentaire, t'es pas capable d'embaucher plus de monde vraiment, peut-être des analystes, mais les enquêteurs, ce sont des policiers. Ceux qui font du renseignement, ce sont des policiers. Quand même, tu mettrais 100 millions, à part, comme je te dis, de payer du temps supplémentaire, à court terme, je pense pas que ça, change grand-chose.
Ouais. Je tirerais un petit peu le problème, là. Je suis persuadé, puis je suis content, je l'avais déjà dit souvent, je suis persuadé que tout.
Tu veux qu'on dise que tu avais raison.
Oui, enfin, si d'ailleurs, on fait écrire un gros chose sur le mur, c'est un gros petit
Il avait raison.
Luc avait raison.
C'est ça, je pèse une bouton, ça s'allume.
Non, je suis persuadé que tous les emplois qui nécessitent présence au travail, donc à pied d'œuvre, vont être en problème de pénurie. On le voit avec le transport scolaire, les infirmières, les enseignantes, les policiers. Tout travail que tu peux pas faire sur le bord de ta piscine sera dorénavant jugé comme un travail secondaire, moins intéressant que l'autre.
Oui, mais bon, on parle beaucoup de la CAQ, de la violence armée à Montréal, de ces dossiers qui se retrouvent sur l'agenda de la CAQ sans qu'elle le veuille. Mais il y a aussi, il faut parler des autres partis politiques, si vous permettez, le PLQ. Ce qui me frappe, c'est l'énergie de la chef Dominique Anglade. Ça me frappe parce qu'elle est positive, pétillante, puis on s'entend, là, le PLQ a quelques défis à relever, pour ne pas dire difficultés. Ils ont emprunté 4,7 millions de dollars pour faire campagne. Ils ont dû hypothéquer 2 de leurs bâtiments, Québec et Montréal. De la difficulté à recruter certains candidats, mais malgré tout, Dominique Anglade, c'est sûr qu'elle peut pas dire à ses troupes, on est foutus, puis c'est la fin du monde, là. Mais en même temps, je trouve qu'elle fait preuve, même à la limite, d'un excès de jovialisme, parce qu'elle a même dit publiquement qu'elle allait gagner la campagne. Alors, je la trouve vraiment, ce qui me frappe, c'est vraiment... Remarquez, pour moi, c'est positif, je la trouve très résiliente. Même chose pour le Parti québécois, qui s'assume, pour vrai, c'est son slogan. C'est un slogan qui, selon moi, dit très long sur la priorité du Parti québécois. En fait, on est tous d'accord pour dire que le Parti québécois joue le tout pour le tout. Puis PSPP aussi se présente comme un chef extrêmement combatif, marqué qu'on a prédit la mort du Parti québécois de nombreuses reprises. Mais ce qu'il veut démontrer, c'est peut-être pour faire... Ce qu'il veut démontrer, c'est que les prophètes de malheur se trompent peut-être avec leur projection pessimiste. Mais en même temps, il faut reconnaître que PSPP, qui est un nouveau chef au Parti québécois, vraiment se bat avec l'énergie du diable, pour ne pas dire autre chose.
Moi, je te dirais, je suis bien d'accord avec toi, je trouve que Parti libéral, Parti québécois, on joue la carte du parti utile, les deux. Un parti utile, ils veulent pas le dire, là, mais ils gagneront pas, là, nous on peut le dire. Nous, on n'est pas dans l'organisation politique. Je l'ai dit, je me suis pas fait aimer, mais en tout cas, toujours est-il que...
Prophète de malheur.
Ils gagneront pas, mais ils peuvent être utiles. La proposition du Parti québécois sur la passe transport, une passe qui te permettrait à 365 $ par jour d'avoir accès à tout type de transport en commun, y compris le transport interrégional, ça me semble extrêmement utile, puis ce sont des idées qui peuvent être prises. Québec solidaire aussi, je trouve qu'ils ont joué une carte qui correspond bien à leur personnalité, qui est de dire... C'est pas vrai qu'on va régler les problèmes à force de petits changements. Ça prend des grands changements de fond. Ils identifient 3 crises, environnementale, inflation, logement. Et ils disent, là-dedans, là, on a besoin de réponses structurantes. Pas cette semaine, on fait une annonce, la semaine prochaine. Mais, sais-tu quoi? La CAQ, à mon avis, j'ai jamais vu un parti aussi près que la CAQ.
Ah oui,
j'ai
non.
J'ai jamais vu ça.
Eux, regarde, la machine est rodée, là.
Et
124 candidats sur 125.
Recrutement.
C'est déjà terminé? Oui? Ouais. Non, peut-être? Oui, il faut aller vite, hein?
OK, le recrutement.
Mais je te dirais, par contre, ils ont un petit problème dans les pubs.
J'ai pas regardé.
Non, voici...
La pub de la CAQ?
Une pub qu'on a trouvé qui s'est ramassée sur la clique du plateau. On écoute ça.
Moi, je vais dire que j'ai toujours dit... Je suis pas bon dans rien, je suis moyen dans tout, et j'essaie d'avancer.
OK, on comprend. Pourquoi. Mais
c'est quoi ça?
C'est comment il s'appelle déjà? C'est un député.
Ah, c'est un député qui dit ça?
Oui.
De la CAQ?
Lac-Mégantic.
Oh my God!
Non, mais attends, pour être franc, François-Jacques, bon, il met ça dans un contexte, tu sais, du bon gars près du monde puis tout ça, puis il dit moi je suis bon dans rien, moyen dans tout. Non, t'sais, c'est sûr que tu prends ça de même, ça fait un peu étrange, là.
Ça fait un slogan de campagne.
Ben, tu sais, je suis bon dans rien.
Ben, t'sais, dans mais ça rejoint les gens.
Oui, ben oui, oui. Ben oui. L'humilité, Paul, la carte de l'humilité, c'est bon,
mais
en politique.
T'sais, ça me fait sursauter un peu.
Je veux parler du PCQ, un départ en Lyon pour Éric Duhem et son parti. Le seul chef, en passant, qui va faire campagne avec son chien, sa chienne Mia. Non, mais ah ça, oui. ça vous fait sourire, mais...
Les chiens et les lions, ça va-tu bien ensemble?
Non, mais vraiment, c'est impressionnant pour un nouveau parti. Avez-vous vu les images d'Éric Duhem, un peu de sérieux, les amis, avec Georges Saint-Pierre?
Oui, j'ai vu ça, mais oui. Hier, il annonce, moi, je vais donner pour 400
policiers.
OK, il n'a pas. C'est facile, là. Vous dire,
c'est ça.
Bienvenue en campagne électorale, ben oui, mon cher ben Paul. Oui. Puis même chose, il a fait un événement devant le PEPS d'Université Laval avec Arnaud Gascon-Nadon pour son 30 minutes de plus d'éducation physique par jour. Remarquez qu'on va pas se mettre à commenter chaque promesse, mais la grande question là-dessus, c'est comment introduit ça dans le cursus scolaire, 30 minutes de pub par jour. Je terminerai avec QS. Manon et Gabriel.
Excuse-moi, 30 minutes de quoi?
D'éducation physique par jour.
Ah oui, oui, okay, OK.
Et rapidement, Manon et Gabriel, le duo de la campagne, et bravo à QS d'avoir choisi de mettre en valeur Manon Massé, qui est une femme qui est très, très appréciée par les Québécois.
En conclusion,
moi, je trouve au contraire que la CAQ joue le Parti conservateur joue la carte de la colère. Et quand il n'y en a pas suffisamment, invente des faits pour la justifier. Fait qu'ils iront pas loin que ça.
Au retour, ben, ça va être le rapport de la semaine.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, c'est le rapport de la commission. Monsieur le commissaire, on vous écoute.
Le ministre des Ressources naturelles qui s'inscrit sur la liste des idiots utiles, dont les écologistes ont besoin pour démontrer que le gouvernement est un idiot utile. Tu sais, avez-vous suivi ça, l'affaire du Mont-Rigaud? Tout le monde rigole, c'est un espace vert préservé.
Ah, la mine, tu parles du secteur minier, c'est ça.
Et donc, la MRC refait le plan d'aménagement et ils veulent inscrire quelque chose qui est permis d'inscrire d'habitude, en tout cas, on peut en faire la demande, d'éviter qu'il y ait de l'activité minière sur le mont Rigaud. Aux portes de Montréal. On se rappelle que la CMM vient de dire qu'il y aura plus de développement sur les boisés partout autour de Montréal. Et là, le MRN qui répond non, il n'y en a pas question. Nous, on ne vous donnera pas cette autorisation-là. Alors, évidemment, c'est parce que il suffit d'amener les journalistes sur le bord du Mont-Saint-Bruno puis demander aux journalistes est-ce que vous trouvez ça beau, la mine, ou sur les abords du Mont-Saint-Bruno? Tu vois, c'est structurant aux abords de Montréal, ça. Tu sais, c'est ces ministères-là qui refusent, qui jouent le livre jusqu'à la dernière, des dernières minutes, sans aucune flexibilité, sans aucune intelligence. Puis ça va leur péter d'en face. Parce que, moi, je me rappelle, Coiteux, excusez-moi, ça vient en chronique, mais c'est pas grave. Coiteux, Parti libéral, qui avait dit, l'extension de la 440 à Laval, là, à travers les boisés de l'ouest de l'île, puis les golfs de l'est de l'île, puis les rives de l'est de l'île de Laval, puis après ça, c'était supposé se connecter sur Montréal, puis passer à travers les boisés. Ça se fera jamais. Enlevez-moi ça des documents, des dossiers. Ça se fera jamais. Puis pendant des années, pourtant, le ministère, à chaque année, réitérait, ah oui, on préserve ces terrains-là pour faire le lien. Ben, il y avait raison, quoi, tu. Il l'enlevait de là, puis ça se fera jamais. Au ministère des Ressources naturelles, là, une mine sur les abords du Mont-Rigaud, ça se fera jamais. Fait que, prenez-en donc note avant la fin de la campagne.
Ça démontre qu'un ministre, c'est utile, mon cher Luc.
Oui.
Un ministre peut faire la différence.
Oui, ben voilà. Une autre affaire. Ce qui ne se règle pas se rempironne. Ça,
c'est la pensée du jour.
Oui, c'est ça. Là, les jeunes, n'allez pas écrire empironné dans votre examen de français, là, parce que il y a quelqu'un qui m'a écrit, ça se dit pas gigantismique en français. Arrête de le dire, ça se dit pas, je sais, ça se dit pas, mais ça se pense fort, par exemple. Mais donc, empironné, ça existe pas, mais dans la vie, ça existe. Manque de profs. Problème de transport scolaire, la magistrature qui est en train de se rebeller contre le ministère puis qui décide de couper 40% de son temps de travail, crise du logement, on dirait que ce ne règle pas, devient une crise extrême dans le monde dans lequel on vit. Et donc, leçon pour la CAQ, là, pareil pour la santé. La santé, c'est un dossier différent parce que la santé, c'est un domaine pour lequel la CAQ a été à la manœuvre, a fait des propositions. mais il semble se poindre à l'horizon une réalité, c'est-à-dire qu'on ne réglera pas la crise de la santé avec des solutions techniques. La ligne téléphonique est en train d'exploser. 4 heures d'attente sur la ligne qui était censée faire du filtrage pour affecter des personnes à des soins, que ce soit un médecin, un physiothérapeute, un pharmacien, etc. 4 heures d'attente, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, les urgences débordent en plein été alors que la COVID n'est pas si forte en ce moment. On voit que le problème, c'est un problème offre-demande et surtout un problème demande. Il y a trop de demandes. Est-ce que je te laisse continuer ou prendre la parole ou je continue?
Ben, si tu peux continuer, si tu veux.
Je peux conclure. J'allais conclure sur ce dont on a parlé tantôt, c'est-à-dire la crise de la violence à Montréal et la décision de Québec de dire on a déjà donné de l'argent et on va pas en donner plus. J'ai été déçu de la réaction des partis d'opposition dans cette affaire-là. C'est une possibilité là vraiment forte de faire valoir sa compréhension de l'urbanité, puis des problèmes sous-jacents, puis d'arriver avec du détail. Je trouve que là, les partis doivent se rassembler, se ramasser un peu et fesser fort. Là. On a l'occasion de prendre le gouvernement en défaut. On peut pas juste dire on va engager plus de monde. Et je conclue en parlant du Parti conservateur sur cette affaire-là. Le Parti conservateur arrive en disant on va couper, on va couper, on va couper, on va couper. On va remettre de l'argent dans les poches des Québécois. Première crise, on va remettre de l'argent. Première crise qui arrive, ah ben là, il manque de l'argent. Faut qu'on mette de l'argent. Coudonc, crème pof.
Non, mais c'est une stratégie, tu comprends? Je t'annonce 62 millions pour 400 policiers,
ouais.
Mais je le dépenserai pas. Il n'y en a pas de policiers.
Ah oui, c'est ça.
Fait que je ne peux pas couper.
Mais j'ai hâte de voir le cadre financier des partis politiques.
Ouais, ça va être intéressant.
Oui, absolument, ouais. Tout à fait.
Madame.
Alors, mon rapport, faire la grève de la faim pour obtenir une meilleure nourriture, ça peut sembler contradictoire, mais c'est une décision prise par une résidente du CHSLD Leclerc. Peut-être avez-vous entendu parler de cette histoire. Annie Tétrault, 48 ans. Bonne nouvelle, la grève de la faim est sur pause. On apprend ça ce matin dans la Voix de l'Est parce que la menace de plusieurs résidents de faire la grève de la faim a fini par réveiller les gestionnaires de l'établissement. Ils ont eu des engagements, il semblerait ferme, que la qualité de la nourriture allait s'améliorer. Je trouve ça absolument pathétique qu'il faille, tu sais, dans le fond, menacer, il faille recourir à une grève de la faim pour que tes repas soient plus intéressants. Il me semble que manger, surtout en CHSLD, ça devrait être un plaisir, là, et non pas seulement un exercice de déglutition. Puis je me dis un peu cyniquement, on devrait organiser un MasterChef pour les CHSLD au Québec. Non, mais écoute, c'est à la mode, là, c'est genre une édition spéciale des chefs.
Tu sais qu'on est loin du MasterChef. Tu sais que cette femme-là, elle nous annonçait qu'il n'y a pas de sandwich aux tomates dans un CHSLD.
Ben non, on ne peut pas avoir de tomates, toi. Ça a l'air, c'est compliqué d'avoir une tomate. Non, mais il y a des... En fait, moi, je pense que le problème, là, c'est...
Les sandwichs de tomates en canne.
Oui, un des problèmes, je crois, c'est la centralisation de la fabrication de la nourriture, puis les budgets qui ne sont pas suffisants pour offrir une offre de qualité.
Une auditrice qui m'avait appelé un jour, on était au mois d'août, c'était une journée de canicule, puis ça portait... Il y avait-il le débat quand Barrette avait voulu faire la réforme des repas?
2016, ben, rappelez-vous, le gros show au Palais des congrès.
Une auditrice d'une gentillesse en ligne, puis j'ai dit, puis êtes-vous bien dans votre centre? Ah oui, les gens sont gentils, puis tout ça. Il devait faire 32 degrés dehors. Puis j'ai dit, puis la bouffe, comment ça se passe? Ben, elle dit, de façon générale, c'est pas mal. Aujourd'hui, c'est un peu lourd. J'ai dit, comment ça? Ben, elle dit, c'est de la tourtière puis du ragoût.
Non!
En plein mois d'août.
Ben,
parce que, les menus sont faits à l'avance, ça je comprends, ouais. Mais qui programme pour le mois d'août
c'est fou,
la tourtière puis du ragoût? Puis elle disait ça, là, pas, je veux pas me plaindre.
Pas
là.
D'agressivité au
non,
film.
Non, elle dit, c'est une petite affaire lourde aujourd'hui.
Non, mais lorsque la nourriture est faite sur place, même dans les hôpitaux, on voit toute la différence. Là, le temps file à la vitesse grand V. Je vais peut-être abréger un peu. Je serai le premier ministre canadien anti-woke. Déclaration sur son compte Twitter de Pierre Poilievre. Méchante vision pour le Canada, toi. Non, mais j'étais absolument renversée. Écoute, depuis quand lutter contre l'injustice ou les injustices, dénoncer le racisme, constitue une menace à notre civilisation? Et je trouve cet homme... Je trouve que cet homme représente une menace pour la démocratie canadienne puis pour nos institutions. Puis évidemment, il n'y a pas de doute sur ses intentions. Je l'appelle le petit Trump canadien. Et j'espère que le 10 septembre prochain, les militants conservateurs vont faire preuve de lucidité. Je l'espère. On s'entend tous pour dire qu'il y a de très, très, très fortes chances de gagner.
Pas mal, oui.
Mais je suis abasourdie par ses propos. Et le lien que je fais, c'est qu'il y a une augmentation des crimes haineux à chaque année au Canada. Et je me dis, hier, avec une déclaration comme celle-là, il a franchi une ligne parce que ce qu'il dit, c'est une chose, mais comment ses paroles sont interprétées par les plus zélés de la société, ça, c'est
une chose.
Mais
moi, ce que je pense, Nathalie, c'est que M. Trudeau va ressortir un de ses costumes favoris, là, puis il va aller voter au Parti conservateur pour Poilievre.
Pourquoi tu dis ça?
Si Poilievre gagne, lui aussi gagne.
Ben c'est clair, absolument, on s'entend. Ben oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en parlant de Trump, juste vous partager mon bonheur immense de lire hier que dans la presse que son réseau social connaît des ratés sur le plan financier. Vraiment, pour moi, c'est c'est un très, très grand bonheur. En fait, ils ont des dettes, 1,6 million de dettes, 6 mois de retard pour le remboursement de leurs obligations, un manque de liquidité, 3,9 millions d'abonnés. Sur cette nouvelle plateforme contre 79,5 millions d'abonnés que Trump avait sur son compte Twitter.
Oh.
Mais moi, honnêtement, j'aurais beaucoup de choses à dire sur cet homme qui est une menace pour la stabilité de nos voisins américains. Et je trouve ça absolument désolant qu'il n'y ait pas plus de gens au Canada qui s'insurgent de tous les discours que peut porter un Pierre Poilievre.
Bon week-end, on vous retrouve lundi, mais toi, il te reste encore un quart de travail à faire.
C'est 23.